Nous voici arrivés à la cinquième et dernière partie de cette chronique. Si vous débarquez, je ne saurais trop vous conseiller de commencer par le début. Aujourd'hui, nous allons aborder les aspects les plus dérangeants de la pratique des thérapies transgénérationnelles. Certaines situations de souffrance psychique et de violence sexuelle y seront décrites. Assurez-vous donc d'être dans des dispositions favorables pour l'écouter.
Méta de choc.
Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Chronique de la spiritualité contemporaine, saison 2, épisode 4, psychogénéalogie et constellation familiale. Comme nous l'avons vu, en psychogénéalogie, une maladie est considérée comme la conséquence d'un nœud familial. Plus spécifiquement, une maladie héréditaire peut être vue comme une solution gagnante, puisqu'elle nous permet d'identifier facilement une loyauté familiale invisible, de la résoudre et ipso facto de guérir de la maladie. Rappelons-nous qu'Anne Ancelin-Schützenberger a publié en 1985 un livre intitulé « Vouloir guérir » dans lequel elle indiquait, je cite, « Chacun possède en soi le pouvoir de guérir ». Elle affirmera ensuite, dans son best-seller « Aïe mes aïeux », que le fait de mettre au jour les traumatismes de nos ancêtres nous permet de guérir de toute maladie, notamment du cancer et de la sclérose en plaques. De leur côté, les constellations familiales considèrent que tout système relationnel peut être appréhendé comme un système biologique et assurent pouvoir soigner les liens corrompus qui conditionnent et pérennisent les maladies. Ce type de raisonnement rejoint très clairement ce que propose le décodage biologique. Cette thérapie pseudo-scientifique, illégale en France, affirme que toute affection est la manifestation physique d'un conflit psychique et pourrait être guérie par reprogrammation de la mémoire cellulaire. De fait, le décodage biologique est communément proposé par les praticiens de la psychogénéalogie et des constellations familiales sous de multiples dénominations, chacune correspondant à une marque déposée. Biologie totale des êtres vivants, biodécodage, psychobiologie, déprogrammation cellulaire, dialogue entre les cellules, pacification en mémoire cellulaire ou encore thérapie de la mémoire implicite. Toutes ces pratiques sont issues d'une thérapie inventée dans les années 80 par le tristement célèbre médecin allemand Rick Gerd Hammer, la nouvelle médecine germanique. Elle repose sur l'idée selon laquelle les cancers sont causés par un choc émotionnel et qu'ils peuvent être guéris par la pensée. Malgré sa radiation de l'ordre des médecins allemands en 1986, il continue à recevoir de nombreux patients et ouvre des cliniques en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Autriche et aux Pays-Bas. Arrêté en Allemagne en 1997, suite à la mort de 7 malades de cancer, il est condamné à 1 an de prison. Poursuivant ses activités, c'est en France, en 2004, qu'il est condamné à 3 ans de prison après la mort de plusieurs patients, dont une femme ayant refusé de suivre un traitement conventionnel pour soigner son cancer du sein. Mais à peine sorti de prison, il ouvre à nouveau, en 2007, une clinique en Espagne. Poursuivi par les États espagnols et allemands, Hammer se réfugie en Norvège, où il finira ses jours. Parmi ses élèves, le français Claude Sabat, radié de l'Ordre des médecins pour son opposition à la médecine conventionnelle, renomme la méthode « biologie totale des êtres vivants » et y intègre l'idée psychogénéalogique de l'inscription du passé dans le corps sous forme de maladie. Il parle d'une perturbation du champ idéomorpho-énergétique et d'une mémoire holographique qui se transmet de génération en génération. Quelques exemples de ces diagnostics ? Il explique l'hypoglycémie d'une femme comme suit. L'arrière-grand-père trouva son père assassiné et mutilé. Cette découverte l'aura sans nul doute profondément choqué et dégoûté. Ce choc psychologique s'est transmis de génération en génération et atteint donc aujourd'hui la jeune femme. Chez un autre patient, la sclérose en plaques est due à la dévalorisation subie suite à la perte de son emploi. Chez un autre encore, la myopathie est expliquée par un surstress hérité d'un ancêtre piégé dans une tranchée pendant la Première Guerre mondiale. Pour Claude Sabat, la clé du diagnostic se situe justement dans l'identification de ce surstress. Celui-ci met le cerveau en veille, en mode survie, tandis que le corps prend le relais en créant une maladie. Le décodage biologique de cette somatisation protectrice constitue donc la première étape de la prise en charge. Une douleur au pied est le signe d'un conflit chez une personne qui ne sait plus sur quel pied danser. Un problème de jambe provient d'une difficulté à avancer dans la vie. Une hanche douloureuse, d'une inflexibilité, un cancer de la vessie, d'une incapacité à marquer son territoire. Ici encore, l'interprétation symbolique du récit du patient guide l'enquête vers une cause initiale, jusqu'à 4 générations en arrière. Lorsqu'une hypothèse soulevée par le praticien éveille chez le patient l'intime conviction qu'il s'agit du bon événement, la guérison peut alors commencer. Claude Sabat, comme son maître, sera rattrapé par la justice et condamné en 2015 à 2 ans de prison ferme, sa biologie totale ayant notamment précipité la mort d'un de ses patients atteint de cancer. Plusieurs têtes d'affiche de la psychogénéalogie participent à la diffusion de ce type de traitement. C'est le cas du médecin français Salomon Selam, inventeur du syndrome du gisant, qui indique « La maladie intervient comme un programme de survie. Seule la résolution du conflit peut arrêter le programme. » La psychanalyste gynécologue et acupunctrice Danielle Flomenbaum contribue, quant à elle, à sa promotion dans le milieu périnatal. Dans une interview donnée à Radio France, elle nous livre le fruit de 30 ans d'expérience et affirme que l'hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus, pour traiter un fibrome trop gros ou des saignements importants, est liée à une fidélité enfermante vis-à-vis des femmes de la lignée. Quand on creuse, on se rend assez vite compte du fait que la psychogénéalogie et les constellations familiales, telles que pratiquées aujourd'hui, sont largement empreintes de croyances New Age. Le psychanalyste et acupuncteur Didier Dumas, par exemple, propose une analyse transgénérationnelle enrichie de chamanisme amérindien, de taoïsme et d'un christianisme revisité, syncrétisme typique de la spiritualité contemporaine. Formé par Françoise Dolto et Jacques Lacan, il affirme que les enfants psychotiques ont des capacités télépathiques et parlent en signifiant. Et de préciser, ils sont les acteurs de l'impensé généalogique. Si la mère a fait inconsciemment un enfant avec un fantôme ou un ancêtre, l'enfant va vers le passé et non le futur. Pour Didier Dumas, la répétition des traumatismes ne se fait pas suivant des dates ou des âges, mais lorsque notre place dans la fratrie correspond à celle du frère ou de la sœur d'un ancêtre mort prématurément ou ayant des problématiques similaires aux nôtres. Confirmant la théorie de Dolto selon laquelle il faut 4 générations pour créer un cas d'autisme, il va un pas plus loin en appliquant texte de la Genèse à l'appui qu'un fantôme se transmet jusqu'à la 7e génération. L'ensemble de ces théories est agrémenté de notions comme l'âme, le corps astral, les expériences de mort imminente et les sorties de corps. Un autre grand nom de la psychogénéalogie actuelle, c'est Bruno Clavier. Lors des stages qu'il anime dans sa « Clinique des ancêtres », il propose de libérer notre arbre généalogique de ses fantômes, décrits comme des structures énergétiques et émotionnelles pathogènes. Selon lui, les personnes autistes, schizophrènes et les nourrissons ne font pas l'expérience d'un temps linéaire, ce qui leur permettrait de se promener dans l'espace-temps et de prédire l'avenir. Dans son livre « Autisme et psychanalyse transgénérationnelle », il indique que les autistes seraient porteurs des traumas de leurs parents et de leurs ancêtres, suite à un décès infantile par exemple. Plus largement, l'inceste, le suicide, les accidents, les meurtres passionnels et le fanatisme religieux sont la manifestation d'un traumatisme transgénérationnel. Les actes manqués et compulsifs, les somatisations et les troubles psychotiques aussi, bien sûr. Nous voilà à nouveau en présence d'un bel effet Barnum. Tout le monde, sans exception, peut s'y retrouver. Dans ce panorama chamarré, l'artiste controversé franco-chilien Alejandro Jodorowsky occupe une place un peu à part, puisque sans concertation avec Hans-Anselin Schützenberger, il a lui aussi inventé le terme de psychogénéalogie dans les années 80, qu'il renommera ensuite métagénéalogie. Cinéaste, écrivain, metteur en scène, clown, mime et auteur de bande dessinée, il met au point une thérapie mêlant psychanalyse, chamanisme mexicain, tarot de Marseille et expression artistique. Pour se réaliser, chacun et chacune est invité à travailler sur l'héritage émotionnel et spirituel légué par ses ancêtres, dans une approche qui, une fois de plus, fait la part belle à la symbolique. L'étude de l'arbre généalogique est d'abord guidée par un tirage de cartes. Une fois les répétitions familiales identifiées, le client pourra atteindre sa pleine réalisation grâce à un processus appelé psychomagie, constitué d'actes symboliques permettant une communication directe avec l'inconscient. Par exemple, pour surmonter un deuil difficile, on pourra sculpter le visage du défunt et l'enterrer. Pour dépasser la colère de l'absence de son père, on pourra jeter une bille de métal sur la tombe d'un anonyme. Pour affirmer sa féminité, on pourra peindre un autoportrait avec son sang menstruel. Du côté des constellations familiales, de nombreux thérapeutes ont pris leur distance avec les méthodes autoritaires de leur fondateur Bert Hellinger, et cette nouvelle posture encourage le plus souvent à l'expression intuitive des participants, donnant un tournant clairement spirituel et énergétique à la pratique. L'animateur ou l'animatrice, en état méditatif ou de réception médiumnique, s'efface alors pour qu'une coopération entre les générations conduise à une guérison simultanée du passé, du présent et du futur, individuelle et collective. En définitive, sur le marché du transgénérationnel, chaque thérapeute, en fonction de ses propres croyances et des formations qu'il ou elle aura suivies, associe à sa pratique des outils aussi variés que le décodage biologique, la géobiologie de l'habitat, la kinésiologie, le jeu du roi-reine, la PNL, l'analyse transactionnelle, la gestalt-thérapie, le rebirth, l'hypnose, la graphologie des ancêtres, le tantrisme, les soins énergétiques, l'art-thérapie, le coaching de vie ou encore des dogmes religieux. Ainsi, il existe de la psychogénéalogie chrétienne, par exemple au sein de la communauté nouvelle des Béatitudes, de l'hypnose transgénérationnelle, des constellations médiumniques et même de la réanimation du périnée par nettoyage transgénérationnel. Vous l'aurez compris, la psychogénéalogie et les constellations familiales, dans une déclinaison sans limite, font désormais partie du buffet à volonté de la galaxie New Age. Un aspect dont on entend rarement parler, ce sont les expériences traumatiques vécues pendant ou à la suite de ces séances. Cette occultation est liée au fait que les thérapies transgénérationnelles sont, comme nous l'avons vu, irréfutables, donc impossibles à critiquer. La personne en souffrance sera le plus souvent ramenée à sa propre incapacité ou au fait qu'elle aurait dû mieux choisir son praticien. Mais le silence est aussi causé par la honte et la détresse qui laisse peu d'énergie à la victime pour présenter son cas et faire face au dénigrement. Dans ce milieu plus qu'ailleurs, se plaindre n'est clairement pas bien considéré. Pourtant, les faits sont là. Déterrer de son arbre généalogique des histoires glauques d'inceste, de suicide, de deuil ou de fausse couche peut créer des problèmes là où il n'y en avait pas et s'ajouter à celui qu'on était venu résoudre. La mise en avant de telles idées et leur mise en scène peuvent aussi faire remonter à la surface des traumas personnels bien réels et entraîner des dissociations et des décompensations que la très grande majorité des thérapeutes transgénérationnels sans formation psychothérapeutique solide n'ont absolument pas les moyens de prévenir et d'accompagner. Certains diront qu'on ne leur a jamais fait ce type de retour. Mais ont-ils conscience que les consultants peuvent ne jamais leur parler des obsessions, des angoisses, des insomnies, des rêves d'inceste ou des symptômes de stress post-traumatique qui ont surgi à l'issue de ces séances? D'autres diront que c'est normal, que c'est le signe que le changement est en train de se mettre en place, que les énergies bougent. Eh bien non, il n'est pas normal de déclencher des désordres psychiques chez des personnes qui viennent, ne l'oublions pas, pour régler des problèmes parfois déjà lourds. J'aimerais vous lire trois récits, parmi tant d'autres, qui, sur une période de presque 20 ans, permettent de se rendre compte du cataclysme psychique totalement injustifiable que la psychogénéalogie et les constellations familiales peuvent générer. Au début des années 2000, Jude raconte « Ma souffrance était à ce moment à son point culminant. Jamais dans ma vie je n'avais été en proie à des émotions aussi violentes. Je me sentais comme une sorte de marmite pression sur le point d'exploser. » Cela provoqua chez moi une réaction émotionnelle extrêmement violente, comme si je me vidais d'un seul coup de toute la tristesse que je ressentais. Je me mis à pleurer devant tout le monde, mais de pleurs qui n'étaient pas normaux. C'était beaucoup plus violent. Durant les nuits qui suivirent, des phénomènes extrêmement inquiétants eurent lieu. Je me réveillais avec une terrible sensation, très difficile à décrire. J'ai plus d'une fois craint de devenir fou. Des années plus tard, Frédéric découvre pendant un stage de constellation familiale que son père n'est pas son père biologique. Il en sort très perturbé, beaucoup d'aspects de son histoire personnelle et familiale étant remis en question. Il contacte alors l'animateur du stage pour lui faire part de son malaise. Pour seule réponse, il reçoit un « ça va passer ». Voici enfin quelques extraits du témoignage de Clara, partagé fin 2023 sur plusieurs groupes d'échanges de tantra, milieu dans lequel les constellations familiales sont en pleine explosion. « J'ai été ébranlée dans mes fondations, foudroyée par un phénomène d'une violence inouïe. Une constellation familiale et chamanique. J'ai été anéantie intérieurement. J'ai connu un Big Bang, une fusion nucléaire qui a fait voler en éclats mes particules les plus élémentaires. Éparpillement de mon noyau et perte d'identité, sidération et dissociation. Chute brutale de tension, extinction émotionnelle et vibration de mon cœur qui aurait pu cesser de battre. Perte de l'odorat, torrent de larmes et de douleurs, prostration. Ma voix et mon visage n'étaient plus les mêmes, sous le coup de la terreur. Je n'étais plus moi, et cela a duré une quinzaine de jours. Au cours de cette constellation, j'ai donc revécu un trauma. Au moment où j'ai ressenti la sensation énergétique d'un sexe masculin qui entrait en moi de force, je me suis effondrée au sol. Je n'étais plus, à partir de ce moment-là, que douleur, cris et pleurs. Une personne incarnant le secret est venue s'asseoir sur moi avec force. Je ne pouvais alors plus me dégager et j'avais mal, encore plus. Terrassée. Cela a duré au moins une demi-heure, sinon plus. J'ai perdu la notion du temps, mais intérieurement, cela a été interminable et insoutenable. J'étais en état de sidération, de choc, et je me suis coupée de mon corps. Et puis on m'a laissée là, seule, exsangue, dans la salle. Participants et animatrices ayant ensuite quitté les lieux pour aller dans la pièce à côté. Pourtant, elles sont professionnelles. Pourtant, elles sont expérimentées. Pourtant, je suis expérimentée. Pourtant, je leur faisais confiance. Pourtant, je les connaissais. Pourtant. Mais cette constellation, de leur dire, c'était du jamais vu. Karmique sur 17 générations. Et je suis restée seule dans ma souffrance insoutenable. Cela n'a fait qu'exacerber le trauma et mes blessures alors en pleine régression. Non-assistance à personne en danger, cela vous parle ? J'ai plusieurs amnésies de cette constellation, mais l'empreinte qui reste est celle de la violence, de l'anéantissement, de la mort de mon cœur, et je suis repartie de ce stage le lendemain, complètement éteinte. Pour un stage sur la guérison du chakra du cœur, c'est un peu fort, non ? Elles n'ont pas voulu reconnaître cette défaillance. Je leur ai adressé 6 brefs messages dans la semaine qui a suivi le stage pour leur dire comment j'étais, comment je me sentais. C'était peut-être désordonné. J'étais complètement paumée et dans un état d'urgence certain sur le plan psychique. Elles m'ont écrit un mail 10 jours plus tard, sans reconnaissance de ce manquement. Je leur fais un pied de nez à elles deux, qui ont cherché à se justifier en brodant autour des faits et qui m'ont littéralement écrit pour finir « Merci également, Clara, de ne plus nous envoyer d'autres messages, car nous atteignons nos limites. » Déjà dans son rapport de 2007, la MIVILUD, instance gouvernementale française de veille et de lutte contre les dérives sectaires, disait avoir été alertée sur un suicide et plusieurs cas de comportement psychotique survenus après mise en œuvre de ces pratiques. Bien d'autres ont suivi, n'en doutons pas. Bert Hellinger a beau être critiqué pour ses méthodes autoritaires, nombre de ses idées ont toujours droit de cité, notamment parce qu'elles sont tout à fait compatibles avec la pensée New Age, selon laquelle nous sommes responsables à 100% de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, on peut croiser sur la toile des Instagrammeuses et des TikTokeuses faisant la promotion des constellations familiales qui déclarent qu'une femme violée a choisi ce destin dans le cadre d'un processus de guérison qui permet de rétablir l'équilibre du système familial. Le maître aborde à plusieurs reprises la question de l'inceste et du viol, notamment dans son livre paru en 2010 « À la découverte des constellations familiales, de la théorie à la pratique ». Il indique par exemple « Dans énormément de cas d'inceste, la mère est l'éminence grise de l'inceste ». Pourquoi dit-il ça ? Parce qu'en refusant d'avoir des relations sexuelles avec le père ou en demandant à un beau-père d'assumer un rôle de père, la mère pousse celui-ci vers sa fille. Pour retrouver l'harmonie rompue, il est alors demandé à la victime de s'incliner devant le représentant du violeur en lui disant « Je le fais pour maman. Je l'ai fait volontiers pour toi. » Et de dire à sa mère « Maman, je le fais pour toi. » Il n'est pas difficile de trouver des sites web sur lesquels des constellateurs indiquent que le violeur ne doit pas être traduit en justice, car le faire n'aiderait personne. Et oui, il ne faut pas se fier aux apparences. Le violeur est en réalité la victime de la mère. Fidèle à la grande tradition psychanalytique, Bert Hellinger fait encore et toujours porter la responsabilité aux femmes et rappelle, je cite, « Ce qui est essentiel ne peut être observé. Ce qui est essentiel est derrière ce qui peut être observé. » Notons au passage que dire « ce qui est essentiel ne peut être observé » est une affirmation irréfutable. Il n'existe aucun moyen de la contredire puisque ce que l'on observe ne permet pas de connaître l'essentiel. Mais Bert Hellinger, lui, y a manifestement accès. Tout comme nombre de praticiens aujourd'hui, il rejette également la faute sur le consultant. Interrogé sur le cas d'une médecin allemande qui s'est suicidée le lendemain d'un de ses séminaires, il répond texto « Je ne l'ai connue que pendant 3 minutes. Dois-je jouer à la maman pour toutes ces pauvres saucisses ?» Que s'est-il passé pendant cette séance? À cette femme venue avec son mari dont elle était séparée, Hellinger lance que leur enfant commun n'est pas de lui et qu'elle a un cœur de pierre. Puis, prenant à partie le public, il dit « Cette femme ne pouvait pas continuer comme ça. Sinon, ça signifiait la mort. » Hellinger se défend en disant qu'il ne savait pas qu'elle était suicidaire. Cela ne l'empêche pourtant pas, lors d'une autre séance, de demander à une personne ouvertement suicidaire de jouer le rôle de la mort. Que peut-il se passer à la sortie, d'après vous? En réalité, les séances n'ont pas besoin d'être aussi violentes pour mener à la déroute. Les expériences hors du commun qui y sont vécues, l'omniprésence du champ lexical de la sexualité et de la mort, la prise de conscience d'un poids qui nous transcende et le sentiment d'avoir accès à des informations jusqu'ici restées secrètes sont un terreau favorable aux prises de décisions radicales. Ils sont aussi une aubaine pour les manipulateurs qui, sous des atours sages et bienveillants bien entendu, ont beau jeu de suggérer des découvertes anxiogènes, la culpabilité de transmettre à ses enfants, la toxicité de l'entourage et ainsi de suite. C'est ainsi que certains constellés vont rompre des liens familiaux ou amicaux, engager des procédures judiciaires ou abandonner des soins médicaux, tout cela sur la foi, rappelons-le, de découvertes qui n'ont pas besoin d'être vérifiées pour être considérées comme valides. Persuadés d'être les récepteurs des traumatismes de leurs aînés, d'autres s'engagent à corps perdu dans la pratique en y laissant parfois toute leur fortune. C'est par exemple ce que rapportent les parents de Sébastien qui, après 20 ans de quête, s'est récemment donné la mort, laissant derrière lui une lettre dans laquelle il faisait part de son profond épuisement et de sa joie à l'idée de quitter cette incarnation pour la suivante. Une autre personne raconte le changement soudain de sa compagne. À son retour, son comportement était profondément changé. Elle en était toute transformée. Et une semaine plus tard, alors que nous étions en train de dîner au restaurant, elle m'annonce brutalement sa décision de rompre nos relations. Une femme témoigne quant à elle de la mise sous emprise de son mari. Il y a 15 mois, sur Internet, il a trouvé un site de psychogénéalogie. Dès la première séance, mon mari est revenu super emballé. Enfin, on l'avait entendu et compris. Les derniers mois de son travail, il me cachait qu'il allait voir les psychogénéalogistes plus fréquemment. Toute son attitude changeait, à tout point de vue. Il y a environ 2 mois et demi, il est revenu d'une séance en me disant qu'il lui avait été conseillé de prendre une période de vacances sans nous, pour voir s'il ne se portait pas mieux loin de sa famille. À son retour, mon mari a dit qu'il allait divorcer de moi et de ses enfants parce que nous empêchions son être intérieur de revivre. Il avait déjà 47 ans et la fin de sa vie approche. Il devait absolument nous quitter, quitter son travail et vendre sa maison. Quelques jours après, il a loué un appartement meublé et a quitté définitivement la maison. Force est de constater que la psychogénéalogie et les constellations familiales suscitent l'intérêt d'un public de plus en plus large et s'intègrent parfaitement au marché des croyances existantes. Il suffit de faire un tour sur les groupes d'échange pour se rendre compte de l'ampleur de la demande et des techniques de recrutement des praticiens. On y trouve pêle-mêle des propositions de séances individuelles en présentiel ou à distance, des stages pour consteller sa grossesse ou pour se réconcilier avec son jumeau perdu. Mais la majorité des publications sont des questions personnelles, lancées comme des bouteilles à la mer pour sortir d'une spirale d'échecs, d'une maladie ou de problèmes relationnels. Les praticiens se bousculent pour y répondre, émettant des interprétations sur une date ou un prénom, langue des oiseaux à l'appui. Là encore, la similitude avec les pratiques divinatoires est frappante. Une hypothèse est lancée, puis une autre, jusqu'à ce que le consultant se retrouve complètement dans l'une d'elles. Si en revanche il n'adhère pas aux interprétations proposées, on lui répond qu'il en comprendra le sens plus tard. Quelques exemples. Une personne qui dit se brûler souvent se voit expliquer que tout ce qui touche au feu ou à un incendie renvoie à l'inceste ou au retour karmique. Une autre apprend que la récurrence du prénom Guy dans sa famille renvoie aux maladies nerveuses, mais aussi au Guy, plante parasite des arbres, donc à un enfant illégitime, à une personne morte trop jeune ou encore à un jumeau mort en début de gestation, symbolisé par la lettre Y. Des événements plus officiels sont aussi organisés. Ce mois-ci aura lieu à Lyon le Symposium international de la psychogénéalogie. Il aura pour thème « L'enfance, fondement d'une vie ». À cette occasion, un hommage sera rendu à Anne-Ancelin Schützenberger, mais aussi à Olivier Soulier, médecin homéopathe anti-vaccination, mort en juillet 2023 pendant une cérémonie chamanique et dont je vous parlais dans la chronique « Chamanisme et néo-chamanisme ». Parmi les intervenants de ce symposium, on retrouve notamment la psychanalyste gynécologue et acupunctrice Danielle Flomenbaum et le psychanalyste transgénérationnel professeur au Sigmund Freud University de Paris, Bruno Clavier. Un pass de 2 jours à 180 euros vous donnera accès à des conférences telles que « Les premiers 1000 jours, les fondations de la vie »,« Votre prénom, un programme de vie » ou encore « Symptômes transgénérationnels chez les enfants ». Enfin, le panorama ne serait pas complet si je n'évoquais pas la très grande pénétration des constellations dans le monde du travail, privé comme public. Comme tout groupe social, l'entreprise est vue sous le prisme d'un système dont l'harmonie dépend de son retour à l'ordre naturel. Dans le sillage de l'entrée triomphante du développement personnel dans le milieu du travail, l'offre de constellations d'entreprise, aussi appelée constellation systémique ou constellation d'organisation, peut se faire dans le cadre de la formation continue, d'un week-end de team building, mais aussi répondre au désir de travailleurs indépendants de dépasser des blocages ou tout simplement de rencontrer d'autres personnes qui, comme elles, sont isolées dans leur quotidien professionnel. Alors que les dirigeants et les salariés pensent y trouver des réponses à leurs problématiques de conduite de changement, de résolution de conflits ou d'augmentation de la productivité, le formateur leur présente non seulement des solutions sans fondement sérieux, mais les incite à une mise à nu qui peut être extrêmement déstabilisante et avoir des répercussions à long terme sur les relations hiérarchiques et entre collègues. Après 2 jours de formation, chacun et chacune repart tranquillement avec un trauma ou un secret de famille sur les épaules. Attardons-nous sur 2 constellateurs qui œuvrent dans le milieu professionnel. Le français Bruno Poignard, tout d'abord, met en avant sur son site des compétences variées. Kinésithérapeute hypersensible, il s'est formé à la médecine traditionnelle chinoise, à l'hypnose ericksonienne, à la méditation, aux thérapies énergétiques, aux neurosciences, à la PNL et au théâtre d'improvisation. Parmi ses partenaires figurent l'Institut supérieur des élus, ISE, et l'Institut supérieur de l'éloquence. Le Suisse Christian Junot, quant à lui, se présente comme un expert de la relation à l'argent. Économiste de formation et banquier pendant 23 ans, il œuvre désormais en tant que coach certifié, formé à la communication non violente et aux approches systémiques. Sur son site web, on trouve parmi ses clients l'école de commerce HEC, le centre des jeunes dirigeants ou encore la Française des Jeux. Il a écrit 3 livres dont « Ce que l'argent dit de vous » et « Pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance » en collaboration avec la vidéaste New Age, Lilou Massé. Parmi les thèmes qu'il aborde sur son blog, on trouve celui si cher à la spiritualité contemporaine, du lien entre amour, sexualité et argent. Il s'attarde aussi évidemment sur les questions de loyauté qui vous empêchent de vivre librement et de passer outre le plafond de verre qui vous empêche de gagner l'argent que vous méritez. Son stage de 2 jours, Amis avec l'argent, à destination des entrepreneurs et des indépendants, rassemble à Paris 100 personnes. Ticket d'entrée 550 euros. On y retrouve les techniques du coaching motivationnel de masse au cours duquel les participants vont danser, sauter et être abreuvés de mantras tels que « l'échec et la réussite, c'est que du mental » ou bien « dans la vie, il n'y a pas d'erreur, tout a un sens, il faut oser traverser nos peurs ». Sa femme, Anne-Chantal Junot, intervient également en tant que coach certifié, formé aux constellations familiales, à la kinésiologie, au décodage biologique, à la communication non-violente et j'en passe. Pour mieux faire face aux défis révélés durant la pandémie, le couple fonde en 2020 une école de naturopathie moderne et inspirante. Selon certains témoignages, Christian Junot aiguillonne chaque constellé jusqu'à ce qu'il pleure, estimant que si ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. À une personne en conflit avec ses parents, il dit « Je vais te demander quelque chose qui ne va pas te plaire. Je vais te demander de te mettre à genoux. » La personne se met à genoux et s'effondre en larmes. En s'adressant aux lignées paternelles et maternelles, elle doit répéter après lui « Je suis le petit, tu es le grand. Tu es le grand et je suis le petit. » Évidemment, quand on investit une telle somme d'argent, il est difficile de refuser de se soumettre aux rituels imposés. Et plus tard, il est également difficile d'admettre que ce fameux stage ne nous a rien apporté. Face à l'absurdité de la situation, à l'éventuelle humiliation en public, le premier réflexe sera au contraire souvent de se forger une carapace de vainqueur. Se pencher sur sa généalogie peut être passionnant et apporter certaines clés sur l'empreinte qu'ont laissée les générations qui nous ont précédées. Mais en se focalisant exclusivement sur d'hypothétiques traumatismes ancestraux, la psychogénéalogie et les constellations familiales renvoient en permanence à la responsabilité individuelle et occultent la dimension sociologique de la transmission familiale. Ces pratiques répondent sans nul doute à un besoin très contemporain de trouver une explication à ce qui nous arrive et surtout d'atteindre le bonheur que nous fait miroiter toute démarche de développement personnel. Si s'entendre dire que notre manque d'argent vient d'un grand-père qui serait allé en prison pour dette peut éventuellement nous apaiser un temps, une telle explication simplifie à outrance une problématique sans doute bien plus terre-à-terre. Alors bien sûr, certaines personnes trouvent des bénéfices à ces pratiques, que ce soit par l'écoute qu'elles y reçoivent, les réalisations personnelles ou les rencontres chaleureuses qu'elles y font. Mais connaître leurs limites, ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas, me semble important quand on aspire à un choix éclairé et au fameux « discernement » si souvent invoqué dans ces milieux. Que cette idée nous plaise ou non, la vie ne peut être lue suivant une grille explicative unique. Les facteurs de nos joies et de nos peines sont multiples et complexes, et une lecture par le prisme exclusif d'un héritage transgénérationnel hypothétique nous fait prendre le risque de nous éloigner de la solution tant espérée et d'ajouter à nos souffrances. Car gardons-le en tête, une maladie familiale peut avoir des causes génétiques ou environnementales, un schéma de violence ou un traumatisme peut se transmettre de manière culturelle, une dépression peut être liée à des violences conjugales ou à un travail ingrat, et notre parcours professionnel est majoritairement induit par nos origines sociales. Au-delà de ça, il est alarmant que les fausses promesses et la stigmatisation des femmes, des personnes autistes et plus largement de tout malade rendu responsable de sa guérison pénètrent un peu plus chaque jour les milieux médico-sociaux au détriment d'une prise en charge rigoureuse. Comme nous l'avons vu, les conséquences de ce type d'errement peuvent être dramatiques. Mais même sans aller si loin, quand on en sort après des années d'espoir et d'engagement, le constat d'avoir tant investi émotionnellement et financièrement dans une pratique illusoire ne peut que laisser le sentiment d'un énorme gâchis. Cette série vous a plu et vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres? Laissez des étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Les algorithmes recevront le message, et moi aussi bien sûr. Sachez que je lis tous vos commentaires. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont apporté leur soutien cette semaine à ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité. Si vous aussi vous voulez apporter votre contribution à ce projet humble et superbe, suivez le lien en description vers les plateformes participatives. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission qui gratte comme un pull en laine à même la peau. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.